J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, si on revient il y a 5 ans en arrière, j'aurais pas signé pour un truc comme ça. J'aurais dit non, c'est pas possible que. Non, c'est improbable. Improbable.
Enquête de famille, un podcast d'Emilien Martin.
Et du coup, est-ce que si vous avez une ou deux photos avec vos parents adoptifs, on peut regarder?
Oui, j'en ai. Je m'appelle donc Pierre Florch. J'ai 59 ans. Je suis né à Metz le 11 avril 1966. Donc ça, c'était pour ma communion. J'avais 11 ans. Donc c'était ici dans la région, là, près d'Étanges Grandes, Étrange. Où on a fait, donc c'est mes parents adoptifs.
Et ils s'appellent comment ?
Agnès et Marcel. On ne trouve pas de ressemblance ni avec un ni avec l'autre, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, après. Bon, j'étais quand même un petit peu plus. Pas basané, mais. Mais voilà, quoi. J'étais un peu plus foncé de peau que eux. Mais bon, à l'époque, ouais, on ne faisait pas. Je ne faisais pas attention à tout ça. Hein. C'était.
Et donc là, vous êtes devant l'église.
À 12 ans, Pierre surprend une conversation de ses parents, ceux qui sont avec lui sur cette photo.
Je crois que c'est la chapelle de Tronche.
Il découvre alors que ce ne sont pas ses parents biologiques.
Comment dire, c'était dur, quoi. Il y avait de la rage, j'avais pas de la haine, hein, j'irais pas jusque-là quand même. Mais c'était dur, quoi, ça faisait mal. Surtout qu'ils n'ont jamais voulu en parler, quoi. Donc c'est encore plus compliqué, hein. C'est très compliqué de vivre avec ça, surtout de l'entendre de la bouche de sa mère, quoi, en fait.
Et quand vous essayez de leur en parler, qu'est-ce qu'ils vous répondaient ?
Je suis leur fils, c'est tout, il n'y a rien à dire d'autre. Puis bon, après, moi, j'ai un caractère aussi qui fait que j'ai vite abandonné. Au début, c'était dur, au début, je le remettais sur la table régulièrement quand on avait des discussions pour X raisons, que ce soit de l'école ou... Et je voyais bien que c'était... Non, il n'y avait pas moyen de discuter. De toute manière, c'était tabou dans la famille. Hein. Mon père était 7 frères et sœurs. Il n'y a personne qui en parlait. Hein. J'ai discuté avec des cousins, des cousines, mes oncles, mes tantes, ma marraine, tout le monde. Il n'y a jamais personne qui m'a dit un mot là-dessus. Et non, c'était... Ils ne comprenaient pas ça. Ils disaient, mais t'es notre fils, il n'y a pas à discuter, c'est comme ça. Et puis, c'était tabou, quoi. Il n'y avait même pas... Alors que je suis persuadé, au jour d'aujourd'hui... Ils n'étaient pas au courant de mon histoire. On leur a dit, voilà, il y a un enfant qui est prêt à être adopté. Ils sont venus voir, hop, ils m'ont pris, terminé, quoi. Donc, tout ce qui s'est passé avant, ils sont au courant de rien. J'en suis intimement convaincu. Hein. Mais bon, à l'époque, voilà, ils ne se posaient pas la question de savoir ce que moi, je pouvais penser, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu la rage contre eux, quoi, au départ. Mon très jeune âge, j'avais un petit peu... Parce que je dis, ouais, mais pourquoi ? Ils pensent à eux, ils ne pensent pas à moi, quoi. Je pense pas ce que je ressens, ce que j'ai envie, si j'ai envie de connaître mes origines, voir de la famille, ben voilà quoi. Donc c'est pas évident, hein. C'était dur, c'était compliqué.
Du coup, à partir de 12 ans, quel lien vous aviez avec votre famille adoptive? Comment vous vous êtes construit dans cette famille?
C'était un petit peu plus dur, disons que j'étais un petit peu moins... L'autorité me dépassait, quoi. Il fallait pas qu'il y ait trop d'autorité, quoi. C'est vrai que j'ai ressenti cette... Quand mon père me disait « il faut faire ci, il faut faire ça », je lui disais non, quoi. Après, ça ne s'est pas dégradé entre eux et moi. Hein. Attention, hein, y a toujours eu l'amour de mes parents. Et puis voilà. Je pense que c'est quand je me suis marié la première fois que tout a changé. Quand je suis devenu papa. Là, j'ai compris... Ça, c'est un peu d'émotion. J'ai compris ce que ça voulait dire d'être parent, en fait. Ce qu'on pouvait ressentir, d'avoir un enfant dans les bras. Et je me suis dit, ouais, je comprends mieux maintenant pourquoi.
Alors, qui a légué ses cheveux crépus bruns et ce teint mat? D'où viennent-ils? Et comment le savoir quand personne n'a de réponse à donner?
En fait, moi, au départ, c'était que les origines que je voulais savoir. Après, oui, on s'imagine père, une mère, frère, sœur. Oui, oui, c'est vrai qu'on se l'imagine quand on est gosse. Hein. À 12 ans, je rêvais d'avoir une petite sœur. Voilà, quoi, c'était quelque chose. Hein, mais bon, J'ai fouillé dans les papiers de mes parents et j'ai retrouvé le premier acte de naissance. Le deuxième acte de naissance où c'était marqué que je m'appelais Pierre Florche et baptisé en 1967. Et puis là, ça a fait tilt, quoi. Et j'avais mon carnet de santé aussi. Et sur mon carnet de santé, donc c'était marqué Pierre Frédéric Florche, mais entre Pierre, et il y avait quelque chose qui était gribouillé, un nom qui était gribouillé, et Florche. Et donc à partir de là, on s'était dit qu'il y avait quelque chose, quoi. C'est après, donc je suis parti à l'armée. Alors moi, j'avais laissé tomber. Je dis pas que ça m'était sorti de la tête, hein. C'était resté dans. Mais j'avais fermé le tiroir à clé, quoi, on va dire. J'avais gardé ça. C'est après, quand je suis devenu papa, en fait, que ça a commencé vraiment. C'est revenu dans ma tête. Je me suis dit, mais non, maintenant, quand je voyais mes enfants, je me disais, non, il faut que moi, j'arrive à retrouver mes parents, quoi. Et donc, avec mon copain Raphaël, qui s'appelait Raphaël, c'était le parrain de ma fille, la deuxième. Et donc un jour, il me dit, écoute, donne-moi ton carnet de santé et puis je vais regarder s'il y a moyen de faire quelque chose. Et il a réussi avec... en fait, il avait pris la page où il y avait ce gribouillage, à la lumière, à déceler quatre lettres. Donc le M, le A, le R et le grec. Marie.
Donc vous aviez quel âge là, à ce moment-là ?
Bon, je devais avoir... quand j'ai vu Coralie, j'avais 24 ans, entre 24 et 26 ans, dans les zones-là.
Après avoir contacté tous les maris habitant à Metz, la piste s'avère être une impasse. Pierre le comprendra plus tard, ce nom, Marie, ce sont les religieuses qui l'ont recueilli à la naissance qui lui ont donné. Une habitude pour les enfants abandonnés de recevoir un prénom en guise de nom de famille.
Donc après, à ce moment-là, j'ai laissé tomber.
Mais t'en parlais beaucoup quand même.
Oui, j'en parlais beaucoup, bien sûr. J'avais envie de... Mais je n'allais pas sur les moyens de communication qu'on avait ce moment-là.
À l'époque-là, on ne connaissait pas encore la portée d'Internet.
C'était
tout nouveau.
Oui, bien sûr.
Donc on n'avait même pas idée qu'on pouvait poser des questions et avoir des réponses.
Et Facebook n'était encore
net.
Pas... N'existait pas encore. Hein, donc,
c'était tout au début.
Et même quand il y a eu Facebook, même... J'allais pas sur les groupes-là, c'était
mais au
pas...
début, tu trouvais pas ces choses-là.
Non, c'est vrai, ils trouvaient pas tout ça, c'est vrai. Et puis, à l'âge aussi, hein, parce qu'on se dit... moi, je me disais à l'époque, 50 ans, 52, 53, 54, puis je rajoutais toujours entre 25 et 30 ans. Je me disais, si mon père ou ma mère, ils sont vivants, ils vont avoir 70, 75, 80, 85, donc on arrive à des âges où... Voilà quoi. Donc à chaque fois, je reportais, je me disais, plus je vieillis et moins j'aurai de chance de trouver de la famille, quoi.
25 ans de pause, sans rien chercher. En 2020, Blandine, la femme de Pierre, découvre dans un reportage télévisé l'existence du CNAOP, le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles. Pierre envoie un dossier, il reçoit une réponse un an plus tard.
Et puis, à un moment donné, je sais pas, il devait être 11h, 11h30, hein, quand je te commençais à t'envoyer les messages, c'était avant midi. Ça, je suis sûr que c'était avant midi. Et puis, je regarde bêtement, hein, comme ça, hein, je dis, tiens, là, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Ouais, ça, il a laissé un message. Bon, j'écoute. Hein. Et puis, voilà, c'est... La dame, elle laisse... Alors, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais bon, je suis Madame Attel du CNAOP. J'ai des informations concernant votre demande. J'ai retrouvé... le nom de votre mère et de vos grands-parents. Donc, si vous voulez me rappeler, et là, c'est fini. Je sais pas comment dire.
C'est quoi comme émotion ?
Une renaissance. On renaît. Donc, elle me donne le nom de ma mère biologique. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on avait dit à l'époque. Marie, on est passé à Witierski, un bon nom polonais, bien polonais. La grand-mère d'origine allemande, née en Allemagne, et mon grand-père, né en Pologne. Et donc je me suis dit, là, c'est un petit peu bizarre quand même, parce que du côté de ma mère, c'est quand même pas du côté... C'est pas italien, c'est pas espagnol, c'est pas... Hein, c'est... Et voilà, vu la tête que j'ai, je ressemble peut-être pas beaucoup à un polonais ou à un allemand, vraiment. Hein.
Qu'importe. La trouvaille est trop belle et la possibilité d'avoir plus d'informations grandit. Le 12 mai 2021, il publie un message sur un groupe Facebook. Une bouteille à la mer. Ouais.
Donc, voilà ce que j'ai écrit. Bonjour à tous. Depuis des années, je suis à la recherche de ma famille biologique. Grâce au CNAOP et ses recherches, j'ai enfin eu un début de réponse. Le nom de ma mère et grands-parents maternels, ainsi que l'époux de ma maman. Malheureusement, ma mère biologique est décédée en 2017, ce qui complique maintenant mes recherches. Donc, je me tourne vers le groupe pour avoir des renseignements les concernant. Si quelqu'un connaît un ou des membres de la famille, ce serait une immense joie de faire leur connaissance. J'ai 55 ans et cela fait plus de 30 ans que je fais ces recherches. Donc voici tout ce que je sais. Ma mère se prénomme Madame Élie Julienne Witierski, née à Neuville en Moselle et décédée en 2017 à Meaux. Elle était l'épouse de Monsieur Michel Nounold. Si vous avez des renseignements, surtout n'hésitez pas. Encore merci à tous.
Du coup, qu'est-ce que vous espériez en mettant ce message ?
J'espérais qu'il y ait quelqu'un qui me dise « j'ai des infos ». Moi, dans ma tête, à partir de ce moment-là, il n'y avait qu'un seul objectif, c'est essayer d'avoir quelqu'un de la famille, si ce n'est qu'un petit ou un arrière-petit cousin qui soit vivant, qui puisse me parler, quoi. Une personne, ou même des amis, enfin quelqu'un qui me dise « oui, on connaît la famille, qui habite à Amnéville, qui habitait là, enfin, peu importe. Je connais l'histoire, je sais ce qui s'est passé, enfin... » Et suite à ça, donc... après avoir mis mon message, je devais être 12-13 heures, on va dire. Et le soir, vers 17 heures, je reçois un message donc, sur ce groupe. Et j'avais été que sur le groupe-là. Hein. Je n'avais pas encore commencé à faire des recherches dans les autres groupes. Et il y a une dame qui m'envoie un message. Elle me dit, voilà, monsieur, j'ai fait un peu de recherche. Il s'avère que j'ai trouvé un profil qui pourrait éventuellement vous intéresser. En fait, c'est une personne qui s'appelle comme le nom du mari de ma maman à l'époque, M. Nounold. Et cette personne habite dans le sud, mais il est né à Amnéville. Donc il y avait quand même deux choses. Il y avait le nom correspondait au nom du père, enfin au nom du mari de ma mère, et le lieu de naissance correspondait à Amnéville, le lieu où ma mère est née, et où a priori tout le monde venait de là, quoi. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'ai pris le profil, je suis allé sur son profil. Et puis donc je reçois ce truc et puis je dis, de toute manière, hein, si je veux avoir des réponses, il va falloir faire un texte. Puis je lui ai envoyé un petit texte via Messenger sur son profil direct. Hein. Et là, alors là, la nuit là, je peux vous dire que c'était, c'était quelque chose. Hein. J'ai endormi là, j'avais mon téléphone. Il n'a même pas le temps de se mettre en veille que je le rallumais à chaque fois. Hein. Je n'ai pas dormi de la nuit. Hein. Je regardais, je dis, putain, il n'y a toujours rien. J'allais sur le site, enfin sur Facebook, Messenger. Un truc de fou. J'allais même regarder sur Messenger s'il était connecté, hein, parce qu'on voit s'il y a une connexion ou pas. Et puis donc le lendemain, on se met à table. J'étais ici, et puis voilà, quoi. Puis j'avais toujours mon téléphone, bien sûr, qui était là, et puis tout en train de regarder, enfin, je mange. Puis à un moment donné, je reçois un message sur Messenger, donc c'était lui, la personne là, que j'avais contacté, qui me dit, écoutez, si ce que vous me dites est vrai, nous avons la même mère. Oh, le téléphone, il est tombé. Ah oui, il est tombé direct. Je la regarde, je dis, je crois que j'ai un frère. Mais hein, direct, hein, c'est la première chose. Hein. Mmh. Et puis à partir de là, voilà, c'était... j'ai pas arrêté. Hein. On a commencé à s'envoyer, je ne sais plus comment... Voilà. On a passé des heures, le soir, la nuit, on s'envoyait plein de messages. Et on a trouvé plein de points communs. Enfin, on avait des points communs. Il m'a raconté un peu notre mère. Et puis donc, à partir de là, on a commencé à s'envoyer des messages. Et puis à un moment donné, il y a eu le deuxième coup de grâce. Le deuxième choc, et ça, c'était le... Je crois, de tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, ça même était encore au-delà, je pense, du coup de téléphone que j'ai reçu du CNAOP. C'est quand, à un moment donné, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres enfants aussi ? Et puis là, il me répond, oui, on a une petite sœur. Et là, ça a fait quelque chose, parce que quand j'étais gamin, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'aurais toujours voulu avoir une petite sœur. Et je me suis imaginé ma petite sœur pendant des années, des années et des années, quoi. J'ai joué avec elle dans la cour chez nous. Enfin, j'ai fait plein de choses avec elle. Hein. C'était ma petite sœur. Et puis là, il nous annonce qu'on a une petite sœur. Elle est 4 ans, ma cadette, 4 ans, oui. Elle est née en 70. Et là, ça a été deuxième choc, mais... Et donc, il me dit, ce qu'on va faire... C'est bon, on s'envoyait plein de messages, hein, forcément. Ce soir, on s'appelle. Moi, j'étais content. Je dis, je parle à mon frère. Quoi. J'étais content, j'étais tout guette. le soir, avant de se quitter, il me dit, on s'appelle demain, dans la journée. Je dis, ok, pas de problème. Et puis le lendemain, donc on attend ce fameux coup de téléphone. Et puis j'ai pu, alors on va dire 15 heures, je ne me rappelle plus trop bien parce que c'est sur le canapé. Et je reçois un coup de téléphone. Donc j'avais eu d'abord un message. Et sur le répondeur, quelqu'un qui avait appelé, qui avait laissé un message sur le répondeur. Mais je l'ai vu qu'après qu'elle m'en ait parlé, quoi. Et donc je reçois un coup de téléphone. Et puis, oui, bonjour, ici Géraldine Calland. Et puis il m'avait dit qu'elle s'appelait Géraldine, nom de épouse Calan, quoi. Ah, j'avais mis le haut-parleur, je lui ai dit bonjour, et j'ai dit au revoir. Sinon, je n'ai pas parlé. Impossible de sortir un mot. J'arrivais pas.
Vous étiez choqué.
J'ai expliqué à petit... Ah oui, complètement. Ah, complètement. Oh là là.
T'arrivais pas à réaliser que c'était possible.
Que j'avais ma petite sœur au bout du... Ah non, c'est... Waouh. C'est... Je sais pas comment expliquer, hein. Ça, c'est quelque chose. Hein. Elle a dit à François... Ah, je crois que c'est mon frère.
Quand notre frère aîné m'a envoyé un message en me disant « Il y a un type sur Facebook qui dit qu'il est notre frère par maman », mon mari, quand je lui ai dit ça, il a dit « Oh là là, il faut qu'il arrête la Mirabelle, celui-là
enfin, ». Voilà, c'est vrai que j'avais omis t'as bien fait de le raconter, ma petite sœur. J'avais omis ça. C'est vrai que ça fait partie des petites choses qui font que… Ben, voilà quoi.
Ça... Bah, ça montre bien que voilà, pour nous, c'était juste pas
possible.
Imaginable, quoi. Oui, voilà. Pas possible. Après, je ne sais pas pourquoi, très peu de temps après l'annonce, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer, donc c'est comme ça, je le sais juste, c'est que j'ai su tout de suite que c'était vrai. Ça, par contre, j'ai pas d'explication. Oui, pourtant, je suis toujours assez sur mes gardes, etc. Et là, j'ai dit à mon mari, non, je suis sûre que c'est vrai. Je suis sûre que j'ai un frère. Je suis sûre que c'est mon frère.
Puis à partir de là, il y a eu cette rencontre. Et là, ça a été... Donc, il y avait François, mon beau-frère, qui était sur la terrasse. Ça, je me rappelle, je peux vous décrire à la seconde près comment que ça s'est passé. Je sors de la voiture et puis j'entends François dire « Géraldine, il y a ton frère qui est là ». Ben ça, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'on se dit, je sais pas.
Ça se réalise.
Ouais, c'est waouh. Moi, ça encore maintenant, quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux.
Mais nous, on s'attendait en fait. C'est ça. Je peux pas dire autre chose, c'est qu'on s'attendait.
Ben moi, depuis l'âge de 12 ans, j'attendais ma petite sœur.
Voilà. Et moi, sans savoir, j'attendais un grand frère qui ne soit pas celui qu'on a, quoi.
Pierre est né entre un frère et une sœur. Ils ont la même mère, mais chacun un père différent. Pierre est le seul à avoir été abandonné. Un secret que sa mère a toujours gardé pour elle. Lors d'un rendez-vous à l'aide sociale à l'enfance de Metz, Pierre récupère plusieurs documents racontant les premiers jours de sa vie. Parmi eux, l'acte d'abandon.
Donc c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a mon nom, Marie, prénom Pierre, né le 11 avril 66 à Metz, fils du père et mère inconnus. Motif de l'admission, après avoir accouché à la maternité, la mère a quitté cet établissement en y laissant son enfant. Nationalité française, religion catholique. Date du baptême le 17 avril 66, pardon, à Metz-Montscourt. Et puis voilà, après, il y a des numéros de... Je me suis dit, elle m'a abandonné, il y a peut-être une raison. Hein, peut-être tu étais violée, hein, peut-être tu... Ah, on s'imagine plein de choses après. Hein. Donc j'ai repris le dessus, puis c'est passé. Mais j'ai eu des moments, des moments, c'était dur. Hein. Pourquoi elle m'a abandonné, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle a quand même eu un enfant avant et elle a eu un enfant après. Pourquoi moi, elle m'a abandonné ? Ça, on saura jamais. On saura jamais.
Ça, on l'a accepté, c'est comme ça. On ne peut pas faire marche arrière. Donc maintenant, il faut se concentrer sur le meilleur. puis même si on n'a pas de souvenirs, on a tenu l'un et l'autre à se raconter justement des choses. Donc finalement, on a presque l'impression d'avoir... Alors effectivement, on ne les a pas ensemble, ces souvenirs, mais au moins on sait ce que l'autre a vécu, comment il l'a vécu et ce que ça signifie pour lui. Moi, par exemple, je tenais absolument à aller me recueillir sur la tombe des parents adoptifs de Pierre, parce que ça me semblait normal, et puis d'aller les remercier de ce qu'ils ont fait pour mon frère. Ça me semblait tout à fait logique, en fait.
Quelle histoire.
Voilà, de toute manière, c'est pas, voilà, on n'est pas demi-frère, demi-sœur, on est frère et sœur.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Peut-être même plus encore que si on avait été élevés ensemble dès le départ.
Peut-être même plus, oui.
On a beau être séparés géographiquement, il est toujours là, il est toujours dans mon cœur. On sait très bien qu'on sera là si on a un problème l'un ou l'autre. On sait très bien qu'on sera là, enfin...
De cette histoire, Pierre garde une trace indélébile. Un tatouage sur l'avant-bras gauche. Famille, 13 mai 2021, le jour de l'appel de sa sœur.
Bah écoute, ma petite sœur, ouais, on se rappellera et puis on se rappelle après si tu veux.
Bisous.
Et le côté paternel alors? Toujours en 2021, Pierre fait un test ADN. Parmi ses origines, polonais, allemand et italien. Il vient donc de là, ce teint mat, ses cheveux bruns. Le résultat révèle un ADN commun avec un homme. Pierre prend contact avec lui et découvre qu'il s'agit d'un oncle. De fil en aiguille, il apprend l'identité de 3 frères et 1 sœur. Et de son père. Il est toujours vivant. Mais Pierre n'apprendra pas plus sur les circonstances de sa naissance.
Parce que moi, le but de tout ça, c'était de parler avec lui, apprendre à le connaître. Moi, ce qui s'est passé 30 ans en arrière, voilà, on lui a demandé s'il se rappelait de ma mère, il dit oui, je me suis rappelé, mais voilà, quoi, sans plus. En fait, il n'a pas voulu dire que c'était un coup d'un soir.
Oui, c'est une histoire d'un soir.
Une histoire d'un soir, parce que un de mes frères, Fabrice, l'aîné, il disait « je suis pas étonné du papa », parce que c'était un coureur de jupons à l'époque. Quand j'allais là-haut, c'était toujours sa femme, ma belle-mère, quoi, on va dire, qui me parlait, mais qui me racontait des choses que j'avais pas forcément envie d'apprendre, quoi. Comment qu'il était quand il était... moi, ce que je veux, c'est maintenant connaître mon père, là, à l'instant T.
Profiter du temps qui reste
pour construire un petit quelque chose, quoi. Et puis bon, au fil des mois, ça s'est passé, et puis bon, voilà.
C'est un peu compliqué.
C'est compliqué, quoi. Donc j'ai laissé un peu l'eau couler.
Est-ce que ça vous a donné envie de faire de la généalogie, de remonter plus loin?
Non, du tout. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est du boulot, et puis ça demande il faut être minutieux, il faut être, et je suis pas du tout comme ça, donc ça serait à peine perdu. Le but c'était pas ça au départ, donc j'ai pas envie d'afficher un truc, ça c'est ma famille. Je dis non, parce que moi j'ai mon autre famille à côté, ma famille adoptive c'est ma famille, et si je veux faire un arbre, je ferai celui-là.
C'était Enquête de famille, un podcast d'Emilien Martin avec la participation de Pierre et Blandine Florge et Géraldine Callan. Mixage, Jean-Christophe Galin. Réalisation, Centre universitaire d'enseignement du journalisme de l'Université de Strasbourg.